Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monsieur Jean-Pierre Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Bertrand, vous êtes premier adjoint aux finances, sport et vie quotidienne du conseil municipal de la ville de Die. Et vous êtes ici pour nous faire part de cette réunion publique organisée le 5 novembre à la salle polyvalente concernant le budget principal de la commune. Alors pour vous, Monsieur Bertrand, quelle a été cette motivation de cette proposition de réunion publique?
Oui, ben la motivation principale était que deux administrés avaient fait des commentaires sur le budget de la ville. Il nous a semblé important que la ville puisse apporter des éléments factuels par rapport à ce budget. Donc ça a été d'abord, d'un point de vue pédagogique, expliquer comment fonctionne un budget, parce qu'un budget d'une ville ne fonctionne pas comme un budget d'un particulier. Et puis après, pour montrer que la situation financière de la ville est tout à fait correcte, même si, je l'ai dit et je le redis, il y a des points de tension, qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on s'adapte, qu'on agisse, et pas qu'on réagisse, mais qu'il faudra agir. Mais c'était surtout dans un but, d'abord pédagogique, de faire comprendre comment fonctionnait le budget, et deuxièmement, de dire que notre budget n'est pas au bord du gouffre ou sous la mauvaise pente. Il est comme tous les budgets de toutes les communes sous tension, puisque on nous demande de faire de plus en plus de choses et les moyens ne sont pas toujours là pour y répondre.
Alors, comme vous le dites, des propos étaient tenus sur les réseaux sociaux ou sur des réunions publiques sur cette gestion. Est-ce que, justement, il y a peut-être aussi une pédagogie à apporter au-delà de cette réunion publique? Je ne sais pas si ça fera peut-être long cours avec les administrés de la ville.
Disons que la pédagogie, c'était surtout d'expliquer comment ça fonctionnait. Et après, il fallait que je me réfère à quelque chose qui soit fiable par rapport aux chiffres que j'allais annoncer. Donc je me suis référé au rapport de la Direction générale des finances publiques, qui est donc un rapport puisque c'est notre organisme de tutelle et que nous rencontrons régulièrement... Ou les services de la ville ou les élus. Et c'est avec eux que nous nous sommes entendus pour qu'ils nous fassent une sorte d'audit, d'analyse. Et donc il était important d'apporter cette analyse en plus de la pédagogie pour montrer d'une façon assez impartiale, même pas assez, d'une façon impartiale, que les comptes de la ville étaient bien gérés, même si, que je le redis, il faut qu'on soit vigilant parce que à tout moment, un petit point faible peut devenir un point de tension et peut devenir quelque chose qui pourrait se dégrader. Voilà.
Alors, pour aborder cette réunion, vous vous êtes concentré principalement sur le budget principal de la commune. Alors, peut-être expliquer cette raison et aussi d'expliquer les autres types de budgets.
Oui, en fait, la ville de Die, elle a six budgets. Elle a six budgets qui sont indépendants. Elle a un budget de l'eau, un budget pour l'assainissement, un budget pour la microcentrale. On a une petite turbine qui produit un petit peu d'électricité. Elle a le budget du camping municipal et de la ZAC de Champ-Queyras et le budget principal. Alors pourquoi on se concentre sur le budget principal? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, des interactions entre ces budgets. Mais pourquoi on se concentre sur ce budget-là? Parce que, par exemple, le budget de l'eau est un budget extrêmement technique. C'est-à-dire que c'est les recettes... ou celui d'assainissement ou de l'eau, c'est les recettes des factures d'eau et d'assainissement qui vont faire que fonctionner le budget. Donc on n'a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez technique. Tant que le budget principal, c'est un budget d'abord qui regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Ça va des écoles maternelles, de la cantine, de la police municipale, de l'état civil, de l'urbanisme, de la voirie, de la propreté, d'entretien du bâtiment. Enfin, c'est assez du CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. Donc, ça regroupe énormément de choses. C'est ce budget-là qui permet de faire des investissements sur la ville, en grande partie. Et puis, c'est ce budget-là qui est, je dirais, le plus commenté, puisque, en fait, c'est celui que chaque année, en fin d'année, on va proposer le budget prévisionnel, primitif, et puis on va analyser le compte d'exploitation de l'année précédente, le compte administratif. Enfin, ça s'appelle CFU maintenant, mais bon, voilà. Donc, c'est ce budget-là qui concentre la plupart des remarques ou des critiques par rapport à la gestion d'une ville.
Alors, il y a aussi ces échanges avec le public. Est-ce que pour vous, il y avait une connaissance de celui-ci sur cette gestion ou alors est-ce qu'il a fallu peut-être les reprendre aussi dans leurs propos ?
Dans le public, on avait deux types de publics. On avait ceux qui sont qui étaient là pour information et que le budget c'est quelque chose qu'ils abordent une fois comme ça par an et qu'ils sont venus prendre une information. Et puis on avait quand même, des spécialistes puisque il y avait Monsieur Vira donc qui avait fait un petit rapport de 20 pages plutôt critique sur le budget. Il y avait des candidats aussi aux futures élections. Donc on peut bien imaginer que ces personnes-là, ils sont un petit peu plus affûté sur le point de vue du budget. Bon voilà, après le dialogue a eu lieu. Moi, ce que je veux dire, c'est que le dialogue pourra toujours continuer. Le problème, c'est enfin la seule chose, c'est que moi, je me réfère maintenant à ce rapport de la Direction générale des finances et pas à des rapports qu'ont émis certains administrés avec leurs propres moyens, mais qui ne se correspondent pas au fonctionnement d'un budget communal.
Oui, semble-t-il que ces personnes n'ont peut-être pas eu la documentation entière ou totale de cette gestion et donc de peut-être se retrouver à défaut.
Non, pas du tout. Alors là, c'est un... quand on nous demande de mettre à disposition des documents, on respecte strictement la loi, scrupuleusement la loi. Et donc, ces personnes qui nous ont demandé, on a communiqué l'ensemble des documents qu'on était en droit de leur donner, on leur a donné. Après, ils ont fait des demandes supplémentaires en demandant de venir utiliser par exemple les postes de travail des agents de la collectivité. Ça, on a refusé, puisqu'en fait, le poste de la collectivité n'est pas quelque chose de mis à disposition par rapport à un administré. Donc ça, oui, on a dit non, mais c'est la loi qui nous dit qu'un administré n'a pas à venir sur un poste d'un agent de la collectivité. Mais tous les documents ont été remis. Mais c'est vrai que ces documents sont d'une complexité, il faut le dire, assez importante, et que moi, je peux reconnaître qu'on peut s'y perdre aussi. Hein, je veux dire, c'est très complexe. Mais tous les documents qui doivent être mis à disposition ont été mis à disposition.
Cette mise à disposition des comptes se font uniquement sur demande ou alors est-ce qu'il y a une plateforme qui permet d'y accéder ?
Elles se font sur demande, uniquement sur demande, c'est-à-dire qu'on a plusieurs administrés qui nous ont demandé les comptes des années 2025 au 24 et on fournit à chaque fois les budgets primitifs et on fournit sur une demande.
Pendant cette réunion, un certain nombre de personnes présentes demandaient aussi cette possibilité de discuter de cette gestion publique au sein de lieux privés. Est-ce que vous avez refusé ? Parce que pour vous, ce n'est pas la place d'un élu de se retrouver, de parler de finances publiques sur un lieu privé.
Enfin, oui, alors. Oui, oui. En fait, Monsieur Vira avait fait une première réunion où il m'avait convié, qui était donc dans un lieu public qui était à la salle Baumier. Je n'ai pas pu y aller puisqu'il y avait conseil municipal ce soir-là. Donc voilà. Et après, il a fait une autre réunion dans un lieu privé où je n'ai pas été convié, mais je ne suis pas allé parce que je pense qu'il y a une séparation à faire entre la collectivité et le lieu privé. Je n'ai rien contre le lieu privé où il a fait sa réunion. C'est tout à fait... il a le droit de le faire. Mais je ne veux pas discuter du budget communal dans un lieu privé. C'est pas la place. C'est pour ça que d'ailleurs, on a fait cette réunion à la salle polyvalente, après, pour justement pouvoir apporter les éléments que j'aurais pu apporter à la première réunion publique si j'avais pu y aller. Mais voilà, j'ai pas pu y aller, j'étais au conseil municipal.
Par rapport à cette réunion publique et ce budget principal, vous avez écarté les autres budgets comme vous les avez cités au début de l'émission. Est-ce qu'ils ont une certaine difficulté aussi à étudier ?
Alors, Si on regarde les budgets, on sait qu'on a un budget qui pose un petit peu problème, c'est le budget de l'assainissement. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'assainissement, quand vous avez une facture, vous recevez votre facture d'eau, il y a une partie vous payez l'eau, c'est-à-dire la distribution de l'eau potable, et puis une partie qui sert à l'eau que vous évacuez, que vous rejetez, qui, elle, doit être traitée. Et donc, sur ce budget-là, le budget de l'assainissement, on a une tension qui est liée à un phénomène ciseau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a une diminution des consommations, puisque l'assainissement se fait par rapport à la consommation qu'on a, on paye son assainissement par rapport à la consommation d'eau. Tenez qu'on prend de l'eau, et puis après on la rejette, donc on paye par rapport à cette consommation. On a une diminution de la consommation de l'eau de la ville de Die depuis quelques années, parce que c'est dans l'air du temps, il y a une prise de conscience, donc ça fait une diminution des recettes. Et en contrepartie, on a une forte augmentation du fonctionnement de l'assainissement, liée à deux choses. D'abord, parce que la station d'épuration, enfin de retraitement, est la plus grosse, c'est le plus gros consommateur d'énergie de la ville. Et là, on a une augmentation de 50% de la consommation, pas de la consommation, mais du coût de la consommation, de la facturation. Ça, c'est la première chose.
Comment peut-on expliquer cette augmentation du coût?
C'est tout simplement lié à la crise ukrainienne qui a fait que les tarifs ont augmenté. Et donc, ils ont, pour les collectivités, ils n'ont pas réellement baissé encore. Donc, on a eu cet effet ciseau. Et on a un deuxième effet sur ce budget de l'assainissement qui est en fait que on doit mettre notre station d'épuration en conformité, parce qu'elle n'est pas en conformité. C'est pour ça qu'on a fait le filtre planté de roseaux qui est à la sortie de la ville à Die juste. Et donc là, on a été obligé d'investir à peu près 400 000 euros de mémoire. Et il faut qu'on refasse en plus un autre bassin de rétention à Chandillon. Parce que pour les eaux d'orage, le filtre planté de roseaux, les eaux arrivent, elles sont traitées par les filtres, par les roseaux, et après elles sont rejetées dans la Drôme, donc avec une qualité. Ça fait une sorte de petite station d'épuration. Et puis après, pour Chandillon, là, ça sera un autre système. C'est on accumule l'eau d'orage et on le redistribue petit à petit dans le réseau pour qu'il soit traité sur la station d'épuration. Mais c'est des coûts relativement importants qui font que ce budget est en difficulté et que la seule façon de l'équilibrer, c'est sur la recette. Donc c'est un budget qu'on est en train d'étudier et qui nous fait pas souci, hein, mais qui quand même sera sur un budget, on peut dire que c'est un budget tendu.
Et justement, par rapport à cette amélioration de traitement des eaux, est-ce qu'il y a une obligation légale pour cela, à laquelle vous répondez ? Est-ce qu'il y a aussi un apport financier pour cette transition ?
Alors, on a des aides sur le fait de planter de roseaux. On a eu des aides de l'État, bien sûr. C'est une obligation parce que en fait, on pourrait arriver à un moment donné, si la station d'épuration n'était plus en conformité, avoir des blocages au niveau de la DDT sur les nouvelles constructions, les nouveaux permis de conduire, en disant vous n'avez une station d'épuration qui n'est pas aux normes, donc on vous dit maintenant la construction est réduite ou ne peut plus se faire. Donc voilà. Donc il faut qu'on le fasse. On a bien sûr, avec l'État, un dialogue constant. Ils savent bien qu'on ne peut pas faire ça d'un claquement de doigts et qu'on va le programmer. Mais il faudra que dans les 4, 5 ans ou 3 ans qui viennent, l'ensemble du système soit de nouveau aux normes pour que il n'y ait pas de blocage après sur l'ensemble de l'évolution de la ville.
Il y avait aussi du camping municipal. Est-ce qu'il pâtit aussi de cette baisse, semble-t-il, de fréquentation ou de baisse de revenus?
On n'a pas le bilan de cette année, mais a priori on est à peu près dans les mêmes ordres que les autres années. C'est le camping municipal tourne assez bien. Il a toujours vocation à être un camping. C'est un peu sa particularité, mais c'est peut-être son avenir. Parce qu'en fait, on a très peu de bungalows. On en a peut-être une dizaine, je ne sais plus exactement. Mais voilà, on n'a pas un alignement de bungalows. On reste vraiment un camping. L'équipe actuelle veut que ça reste vraiment un camping. Mais il a fonctionné cette année à peu près. Enfin, normalement, les premiers chiffres qu'on a sont une fréquentation similaire aux autres années, quoi.
Il y a donc cette réunion publique qui répondait aussi à ces rumeurs par rapport à une mauvaise gestion municipale. Et là-dessus, vous vous êtes appuyé sur un rapport donc de la Direction générale des finances publiques qui a permis de certifier un peu cette gestion. Et pour cela, quels ont été les retours lors de cette réunion publique ?
Les retours sont plutôt bons. Moi, j'ai eu pas mal de mails ou dans la rue. On m'a dit que bon, il y avait eu ce côté pédagogique qui avait été apprécié parce que le côté assez les chiffres avancés étaient impartiaux parce que c'est vrai que si j'étais arrivé avec mes chiffres. Parce que j'aurais pu sortir moi aussi des chiffres. Je pense qu'on aurait une bataille de chiffres, quoi, comme on a un peu au niveau national en disant ce que je dis c'est vrai, non c'est faux. Enfin voilà, il y aurait. Je pense pas qu'on en soit sorti grandi d'une façon de fonctionner comme ça. Bon, ce rapport a le mérite d'être fait par l'État. C'est des spécialistes de la comptabilité publique, c'est des gens qui nous suivent aussi parce que c'est à la fois nos interlocuteurs, nos conseillers, mais c'est aussi nos ils nous notent, quoi, quelque part. Ils nous regardent, quoi. Je veux dire, c'est leur but aussi, c'est de veiller à ce que toutes les communes soient gérées de façon assez correcte pour pas que les équipes, quand les nouvelles arrivent, se retrouvent avec de l'endettement. Donc, moi, le retour que j'ai eu, c'était plutôt assez favorable, enfin, bien perçu, et que ce rapport remettait les choses à plat et au moins donnait une identité. Avec, bien sûr, comme je l'ai dit, des points de tension. Il n'y a pas de ville aujourd'hui qui peut se dire, moi, mon budget, il roule, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème, je le fais les doigts dans le nez. Non, ça n'existe plus, quoi, je veux dire. C'est de plus en plus compliqué.
Et par rapport à ce rapport, il y a peut-être des conseils qui ont émergé aussi sur la manière de gérer.
Oui, c'est-à-dire que le rôle de la DGFiP, c'est la Direction générale des finances publiques, c'est à la fois de faire une analyse et aussi d'apporter des orientations en disant voilà vers quoi vous devriez tendre. Donc dans ce rapport, et c'est comme je l'ai dit lors de la réunion, il faudra qu'on tende vers trois choses par rapport au budget 2026 qu'on est en train d'établir, c'est-à-dire à la fois de lisser un peu les investissements pour qu'ils soient un peu moins présents, enfin ils soient mieux répartis dans le temps pour éviter d'avoir des investissements trop lourds sur une année. Il faut les lisser. Il faudra qu'on travaille sur le fonctionnement aussi, puisque le fonctionnement, c'est une partie du budget, c'est-à-dire, entre autres, sur la masse salariale qui représente un peu plus de 50% du fonctionnement. Il faut travailler. Il faut qu'on travaille sur les recettes aussi, puisque les dotations de l'État, avec ce qui se passe au niveau national, on voit bien que on n'est pas très optimiste, je dirais, sur l'évolution de l'État. Donc il faudra que la ville active ses ressources propres pour pouvoir, agir sur le budget des années qui viennent et pas réagir.
Effectivement, le contexte économique est plutôt instable, voire difficile, que ce soit au niveau de l'État. Là, récemment, j'ai lu un article comme quoi près de 10% de commerces disparaissaient sur la ville de Paris. Donc, le contexte économique est très, très mauvais et on peut retrouver cet écho dans des villes comme Die aussi. Est-ce que ça impacte aussi le budget ?
Alors, ça n'impacte pas vraiment parce que les ressources de la ville de Die au niveau du budget, c'est la taxe foncière, c'est-à-dire pour les propriétaires qui ont une maison ou la taxe d'habitation des résidences secondaires. On a quelques ressources annexes qui sont une taxe qui est sur la facture d'électricité. Et puis, on a la dotation au droit de mutation aussi qui intervient. Économiquement, ça n'a pas un impact. L'économie locale n'a pas un impact sur l'impôt. Mais il a forcément un impact indirect dans le sens où quand vous avez un commerce qui est ouvert, c'est quelqu'un qui habite la ville ou qui habite pas loin de la ville. Si vous avez un commerce qui ferme, vous avez forcément quelqu'un qui n'habite plus la ville. Donc forcément, il y a des répercussions. Mais elles sont plutôt indirectes. Mais la ville, elle, sur le centre-ville, sa volonté, c'est aussi que les commerces restent et qu'il y ait une activité, quoi, en dehors de recettes propres qu'elle pourrait en faire. en globalité sur beaucoup de communes, c'est que ces commerces qu'on appelle essentiels ont de plus en plus de difficultés à rester dans le centre-ville. C'est pas pour ça qu'on ne s'attache pas à ce qu'il reste quand même, que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un commerce qui vend avec la manager de centre-ville, on intervient très rapidement pour essayer de voir, de trouver un remplaçant, un successeur. Bon, voilà. Donc notre volonté est quand même... Je ne vois pas comment une commune pourrait dire « ma volonté, c'est que les commerces du centre-ville ferment ». Voilà, je veux dire... Voilà.
Lors de cette fin de réunion, j'ai été interpellé par un des candidats aux prochaines élections municipales qui m'a demandé de pouvoir participer à une émission. Et il nous avait écrit un courrier dès le lendemain pour exiger un temps d'égalité de parole. Mais pour moi, à mes yeux, cette réunion répondait plus de propos erronés plutôt qu'une campagne électorale.
On est aujourd'hui, depuis le mois de septembre, on est dans ce qu'on appelle la réserve électorale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit la municipalité en place n'a pas le droit d'utiliser des événements pour une quelconque propagande électorale pour des gens qui se représenteraient ou pour une équipe qu'elle serait susceptible de soutenir. C'est pour ça que cette réunion publique, elle était bien une réunion publique d'information. Je veux dire, à aucun moment, je n'ai parlé de la politique de la ville. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était une demande d'un administré à la fin en disant « vous auriez dû plus parler de ça », mais ce n'était pas le but. Par contre, ça serait peut-être une bonne chose que pour les années qui viennent de refaire ce type de réunion où on pourra parler de la politique. Mais là, on était vraiment dans la réserve électorale, réunion d'information. Je me suis cantonné à ça et donc on est resté sur ce sujet-là. Donc moi, à mes yeux, il n'y a pas de droit. C'était pas une réunion électorale. C'était une réunion d'information.
Voilà, c'était un point à éclaircir. Vous êtes donc adjoint aux finances, au sport et à la vie quotidienne. Est-ce que pour vous, justement, autour de ces finances, est-ce qu'il y a un ressenti au niveau de la vie quotidienne?
Vous savez, un budget, c'est pour une ville, c'est 80% ou 70% de quotidien et 30% de projet. Alors je sais que les élections approchent et que beaucoup de gens ont beaucoup, beaucoup de projets. Mais la réalité va vite rattraper les candidats. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Diwoises et les Diwoises, ce qui les intéresse, c'est leur voirie. Comment je peux me déplacer dans la ville? Enfin voilà, c'est le quotidien qui les intéresse. Donc c'est vrai que moi, avec la vie quotidienne, je reçois beaucoup de gens. Alors c'est vrai qu'il y a des tags dans la ville, donc on a mis en place un système pour détaguer. On le fait toutes les 3 semaines. On fait des passages réguliers toutes les 3 semaines. Alors c'est vrai que comme on le fait que depuis quelques mois, c'est vrai qu'on on a du retard par rapport aux taggeurs qui sont plus mobiles, plus rapides et puis qui sont par période assez présents. C'est bien sûr que le budget a toujours une influence puisque en fait je dis que 70% du budget va dans l'entretien quotidien. Changer la toiture du musée par exemple, c'est pas glamour, je vous le dire, mais c'est soit on la change, soit elle passe à travers, quoi, je veux dire. Donc ça, les DIY, ils le voient pas, mais ça a coûté 500 000 euros par exemple. C'est vraiment le quotidien, il est vraiment fait. Le budget est fait pour une grande partie pour le quotidien.
Et puis les tags, on les a rencontrés depuis de nombreuses mandatures. Hein. C'est pas lié à celle-ci.
Je suis d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'en. Enfin, c'est pas une excuse. Je pense que il y a des éléments comme ça qui sont des éléments un peu traumatisants pour une partie de Diwa, parce que j'ai un peu d'expérience et un peu d'ancienneté dans cette ville. C'est vrai que quand on trouve sa façade, qu'on vient de rénover. Et je pense à une personne en particulier qui venait de la faire, l'échafaudage avait été enlevé le vendredi et le lundi matin, elle trouve un tag dessus. On a beau dire que les tags, il y en a toujours eu. Je peux vous dire que quand vous devez vous lever le matin, vous sortez de chez vous, vous voyez ça, vous n'avez pas la haine, mais vous dites c'est vraiment. Enfin, ce qui se passe, c'est pas terrible, quoi. Donc je pense que c'est pas à minimiser les petits. Enfin, c'est des petites incivilités globalement, mais elles sont pas à minimiser parce que elles peuvent très vite, je vais pas dire pourrir, mais rendre, mettre un mauvais quelque chose de qui n'est pas agréable. Et c'est sûr que S'il y en a toujours, il y en a toujours eu, il y en aura peut-être encore pendant longtemps, mais c'est pas pour ça qu'il faut se résoudre à ne rien faire.
Non, mais c'était pour dénoncer, soi-disant, un certain laxisme municipal vis-à-vis des tags, selon certains administrés.
Bah, de toute façon, je vais vous dire, la ville idéale que voient certains en se référant dans les années 70, je pense qu'ils n'étaient pas là dans les années 70, parce que moi j'y étais. Donc la ville dans les années 70 n'était pas sûrement idéale. Elle était différente. Elle était différente. On pouvait même dans les années 70 remonter dans les deux sens en voiture la rue Camille Buffardel. Donc c'est sûr que c'était très différent. Bon, les choses ont changé, voilà. Donc pensez bien que la collectivité aussi, elle est là pour essayer de minimiser toutes ces incivilités, que ce soit les. Alors elle le fait avec ses moyens, avec les moyens de la gendarmerie, avec les moyens de l'État. Mais bon, elle le fait quoi. Le but, c'est quand même d'arriver à minimiser ce type de choses, quoi.
Cette réunion publique du 5 novembre a été enregistrée donc, et mise en disposition d'écoute sur le site de la ville de Die. On peut y accéder facilement dans le menu. Et également sera publié le 24 novembre ce rapport de la Direction générale des finances publiques sur cette gestion municipale où là seront proposés à la vision tous les budgets.
Alors non, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le rapport de la Direction générale des finances publiques sur le budget principal qui sera mis en ligne. Alors certains se sont étonnés, dont M. Vira, que ça soit si tard. En fait, c'est par rapport à une cohérence de communication, puisqu'en fait, ce rapport sera mis en ligne en même temps que le prochain flash sortira, puisque sur le flash, on fait un rappel de cette réunion et on donne un lien, justement, avec le rapport. Donc il nous semblait cohérent dans notre communication d'avoir ça en simultané. Ce rapport sera consultable. Il sera celui du budget principal uniquement, parce que c'est celui que j'ai parlé pendant la réunion. Donc c'est celui-là qui sera mis en ligne. Il sera consultable. Alors il y a 70 pages. Alors il y a 70 tableaux, des chiffres partout. Donc j'invite les administrés, s'ils sont courageux, à les voir. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des commentaires. Et dans ces commentaires, je ne l'ai pas caché, il y a des choses qui sont marquées que ça va bien. Et puis il y a des choses où on dit, attention, là, c'est un peu tendu, il va falloir faire quelque chose. Donc tout est... Enfin, notre volonté aujourd'hui, c'est d'être vraiment transparent, c'est-à-dire d'être clair, de ne rien cacher. Moi, j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit, que la prochaine mandature se retranche en disant, ah, mais vous voyez, dans la situation que nous ont laissé. Non, tout est clair. Ce rapport est très clair. Il est fait sur les 5 dernières années, 2020 à 2025. Donc, je veux dire, c'est globalement notre mandature, puisque 2020, c'est une année un peu bizarre, puisque c'est une année où il y a eu deux équipes municipales, l'équipe de Gilbert Trémollet de Policy premier mois et nous dans les six derniers. Bon, mais c'est quand même globalement sur notre mandature. Donc, je voulais qu'il y ait une transparence sur un support qui était fiable, qui est celui de la Direction générale des finances publiques, pour permettre à chacun de se faire une idée. Voilà. Après, moi, si les Diois disent c'est quand même pas terrible ce qu'ils ont fait, ils auront le droit de le dire, mais ils le diront par rapport à ce document. S'ils disent ils ont géré correctement, ils le diront aussi. Donc voilà, c'est ça le but.
Suite à cette réunion publique, est-ce que on pourrait envisager à l'avenir de proposer justement un accès à cette gestion auprès du public?
C'est vrai que traditionnellement, le budget est une question qui est abordée essentiellement au conseil municipal. Donc au conseil municipal, on a un dialogue ou une confrontation, je ne sais pas comment appeler, entre l'opposition, la majorité sur le budget. Et bon, ça fait souvent un article dans une demi-page dans le journal de Die. Et puis voilà, basta, c'est fini, on n'en parle plus. Suite à cette réunion, moi, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit, je pense que il faut que, pour que la démocratie puisse être mieux perçue par les administrés, il faut qu'elle sorte de la mairie. C'est-à-dire que même sur un sujet comme ça, qui est un sujet difficile, les finances, honnêtement, sortir fin novembre, mi-novembre, à 18h30, à la salle polyvalente pour aller voir les finances, présidence, bah, honnêtement, j'étais étonné qu'il y ait autant de monde, quoi. Je veux dire, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais simple administré, je suis pas sûr que je sois sorti ce soir-là, quoi. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a un besoin chez les administrés d'aborder ces sujets de fond un peu différemment. Alors, on va pas faire lors d'une réunion publique, c'est pas là où on va discuter ou voter le budget. Il se fera toujours au conseil municipal. Mais je pense que si dans les années qui viennent, la future équipe avait cette idée de pas tous les ans, hein, parce qu'on va pas, mais tous les deux ans, de dire voilà le budget, voilà depuis deux ans comment il a fonctionné, voilà ce qu'on a fait. Et puis là, on pourrait avoir les questions politiques, parce que qu'on n'a pas pu avoir lors de cette réunion, en disant mais pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez investi là, c'était pourquoi vous avez augmenté du personnel, pourquoi vous avez pris des agents en plus. Et je pense que ça serait, à mon avis, ça serait intéressant, parce que ça ramènerait un peu, pour une certaine partie de la population qui voudrait bien écouter, ça la rapprocherait du fonctionnement communal, et ça porterait un petit peu plus de démocratie. Alors, les termes participatifs ou tout ça, je ne sais pas, moi, ces termes m'intéressent peu, mais je trouve que sortir de la mairie de temps en temps, ça serait un bien, ça serait bien.
Jean-Pierre Bertrand, merci beaucoup d'être venu sur RDOA pour nous parler donc de ce retour de réunion publique d'information sur le budget principal de la commune. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Mais merci, vous aussi.
Au revoir.